Nous reprenons, si vous voulez bien, juste deux annonces avant de reprendre. Je vous ai dit, je crois, la semaine passée déjà que nous aurions deux séances de cinéma. Je ne sais plus si je vous ai donné les dates parce que j'en étais incertain. Le mercredi 16 février à 18h à l'École normale supérieure, nous verrons Au hasard Balthazar et Masculin-Féminin. Et le lundi 7 mars, nous verrons La religieuse de Rivette et les amours d'une blonde de Milos Forman. Et bon, on aura une discussion après ces deux films, ou entre les deux, je ne sais pas très bien encore comment on fera. Et alors l'autre annonce, juste avant le cours, il y a un conférencier invité par le professeur Stanislas Dehaene et par moi, qui vient de donner une conférence. J'avais oublié de vous prévenir, c'était à 2h30, donc c'est trop tard pour celle d'aujourd'hui, mais il y en a une la semaine prochaine à 2h30, de 2h30 à 3h30, donc, sur Nabokov. C'est en anglais, ça s'appelle Nabokov as Psychologist. Et c'est s'il est invité par Stanislas Dehaene et par moi, c'est parce que c'est un littéraire, c'est un critique littéraire qui s'intéresse aux problèmes de cognition liés au récit. Aujourd'hui, donc, nous recevons Elisabeth Rodinesco. J'ai essayé parfois de faire mon cours en fonction de l'invité. J'avais pas prévu que ce cours en fait pour vous. J'y avais pas pensé parce que bon, je vous associais à Lacan, mais évidemment Elisabeth Rodinesco vient de me rappeler dans les coulisses que cette polémique que j'ai évoquée de 65-66, elle l'a totalement vécue. Donc même si ce n'était pas le cours où je parlais de Lacan, comme j'en ferai sûrement un jour ou l'autre, c'était un cours qui était aussi pour vous. Dans ces années-là, vous enseignez en Algérie, en 1966, où vous me disiez que ces polémiques étaient transportées, et c'était avant et après vos études à la Sorbonne, donc en plein dans ces polémiques que j'évoquais. Mais si je vous ai invité, c'est surtout pour nous parler de Lacan, puisque Lacan, c'est une des publication importante de cette année 1966, et si c'est en pensant aux ouvrages que vous avez publiés, que je vous recommande dans la Pochothèque, L'histoire de la psychanalyse en France et Jacques Lacan, puisque ces volumes sont maintenant réunis. Voilà, nous allons donc parler de la publication des écrits, si vous le voulez bien, mais enfin, si vous avez des commentaires
oui,
à faire sur ce qui
oui.
vient d'être dit, puisque vous en avez été témoin, nous serions heureux de les entendre.
D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et sur ce thème de cette année magnifique qui préparait d'une certaine manière les révoltes de mai 68. En tout cas, pour moi, 68, c'est-à-dire les années où j'ai fait des études de lettres, j'ai une formation littéraire, et j'étais aussi cinéphile et j'étais proche des cahiers du cinéma. Donc, si vous voulez, je daterais moi c'est pas Pierrot le Fou, mais disons la sortie du Mépris de Jean-Luc Godard, qui était le grand moment du passage du cinéma à cette révolution formelle qui existait. Et en même temps, j'ai donc rencontré à la Sorbonne directement, en entrant dans mes études de lettres, la querelle Barthes Picard, puisque j'avais comme professeur les adeptes de Picard à la Sorbonne Lettres. Et donc l'interruption, disons, il y a 64-65, le début de ma licence, je pars en Algérie pour enseigner une année, donc 66-67, ces querelles existent aussi là-bas, et elles existent dans le cinéma, puisqu'il y a cette année merveilleuse de la Cinémathèque d'Alger, où sont projetés tous les films de la Nouvelle Vague, dans un climat mais absolument extraordinaire, puisque c'était un lieu de liberté, la Cinémathèque d'Alger. Un lieu de liberté d'expression. On était évidemment sous l'ère boumédienne, mais pas encore dans la radicalisation. Mais il y avait tous ces débats étaient transportés. Alors pour moi, ensuite, je reviens en France l'année 67-68, je termine donc ma licence à la Sorbonne en linguistique. Voilà. Et donc, la découverte pour moi de ce qui a été pour moi la vraie révolution intellectuelle, c'est-à-dire le structuralisme, je le lis à travers, non pas du tout Lacan, que je vais découvrir, enfin, je connaissais Lacan dans ma vie privée, puisque ma mère était psychanalyste et de sa génération, mais je le découvre, bien entendu, dans les œuvres de Barthes, La lecture de Critique et Vérité, et La querelle sur Racine, et puis surtout de Michel Foucault et de Louis Althusser, 65-66, Les mots et les choses, est un moment fondamental, et en arrière-fond, le vrai structuralisme, c'est-à-dire celui de Saussure, Jacobson, et Lévi-Strauss. Alors l'enseignement qu'on recevait dans le secteur lettres avant 68 était vraiment, du point de vue de l'étudiante que j'étais, en contradiction radicale avec ce que nous lisions. La jonction, le passage, disons, dans la sphère universitaire des auteurs que j'aimais, elle s'est faite après 68 à l'université de Vincennes, où là, en quelque sorte, je ne dirais pas qu'ils se sont académisés, mais on a eu l'arrivée de tout ce qui était rejeté par la vieille Sorbonne. Dans ce secteur lettres, je rappelle quand même que Barthes était diabolisé, Foucault encore plus, Derrida était considéré comme je ne sais quoi, et en linguistique, on ne pouvait pas lire Jacobson. Il y avait le cours du professeur Martinet qui excluait le vrai structuralisme. Et d'autre part, pour l'enseignement en lettres, on considérait qu'on devait s'arrêter à la fin du XIXe siècle. On ne pouvait pas mettre les modernes au programme, ce qui était vraiment un problème. Donc j'étais furieusement favorable à Barthes. Alors cette révolution structurale était sentie comme une révolution. Elle permettait en effet de critiquer le conservatisme de l'université et moi ça m'a permis ensuite, quand je suis arrivée à l'université de Paris 8 de Vincennes, de faire ma maîtrise de lettres avec Svetlana Todorov sur Raymond Roussel, hein, c'est dire quand même le changement. Alors je rappelle quand même que c'est ce que Lacan va dire quand il affirmera qu'en mai 68 les structures sont descendues dans la rue. Là, je me suis absolument reconnue, parce que je suis vraiment descendue dans la rue, non pas du tout dans une position gauchiste ou politique, mais vraiment, vraiment au départ, pour en finir avec ce vieil enseignement. Alors, il y avait aussi cette idée que j'avais et que nous avions, nous partagions à l'époque, c'est qu'au fond, les révolutions esthétiques sont de même nature que les révolutions politiques, bien qu'elles ne se croisent pas. Hein. Elles ne se croisent pas, puisque la conception, en général, révolutionnaire et engagée de la littérature n'était pas du tout du côté du formalisme. Alors, je vais maintenant vous parler du sujet d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de Lacan. Alors, dans un colloque de 1990, consacré à Lacan, Derrida a raconté fort bien les circonstances de sa première rencontre avec celui-ci lors du fameux et célèbre symposium sur le structuralisme, octobre 66, qui est un grand moment, hein, c'est le passage de tous ces Français aux États-Unis, où ils sont invités à l'université de Johns Hopkins à Baltimore pour débattre de toutes ces questions. Je l'évoque très longuement dans mon histoire. À cette date, Lacan craignait que l'idée de réunir en 900 pages la quintessence de son enseignement n'aboutit à un désastre. Et il disait, vous verrez, ça ne tiendra pas. Il parlait de la reliure, mais évidemment, il s'agissait d'autre chose. À cette époque, Lacan était très peu connu en dehors des cercles intellectuels, pour la simple raison que son séminaire était oral depuis 1953, qu'il n'y avait pas d'œuvre écrite. Donc on pouvait lire l'œuvre de Lacan à partir des articles qui étaient publiés dans des revues, dans la revue La Psychanalyse, et qui étaient eux-mêmes le condensé, en quelque sorte, du séminaire qu'il tenait. Chacun de ces articles, évidemment, Lacan, c'était la relecture de Freud à partir du structuralisme, à partir de l'introduction de la théorie du signifiant, de la parole, du discours. On était en plein dans tout ça, mais il n'y avait pas de livre encore, hein, en 66, c'était éparpillé. Et donc, la question qui le tenaillait, c'était celle de la publication, qu'il appelait d'ailleurs « poubellication ». Je vous rappelle que Lacan, du point de vue du langage, passait son temps à faire des néologismes. On en a recensé 789, ce qui est absolument énorme. Et il appelait donc « poubellication », désignant par ce terme le reste, hein, théorie de son réel et de l'objet petit a, le reste, le résidu ou le déchet que pouvait être à ses yeux l'objet de son plus cher désir, parce que naturellement il désirait en même temps avoir ce qu'il ne voulait pas avoir. Ça, c'est tout Lacan. Hein. Poubellication, cette écriture, hein, il disait, c'est cette écriture, c'est-à-dire à la fois c'était péjoratif. Il disait ça à propos de son fameux séminaire, hein, donc, qui a duré de 1953 à 1980, avec même des prémices avant. Et il manifestait par ce geste à quel point il faisait semblant de mépriser le passage de la parole à l'écrit. Il avait publié, donc, je le rappelle, sa thèse de médecine en 1932. C'est le seul livre publié, qui était d'ailleurs introuvable à l'époque, et qui avait fait de lui, déjà hein, à cette époque, un penseur très important dans le milieu surréaliste, puisque c'était une étude tout à fait nouvelle du discours de la folie. Donc il y a le Lacan proche des surréalistes hein, pour cette thèse. Ensuite, il y a le Lacan qui va découvrir la phénoménologie de l'esprit par le cours d'Alexandre Kojève. Il passe par la phénoménologie. Et puis ensuite, il y a cette troisième étape qui va être le Lacan structuraliste. Alors, pour revenir à ces années-là, Lacan n'aurait jamais été capable de prendre l'initiative de la publication de ce qu'on appelle son opus magnum, c'est-à-dire les écrits, hein, 900 pages, sans l'aide d'un très grand éditeur, ayant une solide formation philosophique et qui était aussi son ami et son analysant. Je veux parler ici de François Vall. François Vall a été hein, celui qui a accouché l'œuvre de Lacan. À partir de 1964, Lacan était entré à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm grâce à l'initiative de Louis Althusser, puis avec la création de son école, l'École freudienne de Paris, il était devenu, au-delà de sa pratique clinique, un penseur reconnu, contesté mais discuté, notamment par Foucault, Barthes, Derrida, Gilles Deleuze, avec lesquels il va entretenir des relations très conflictuelles d'ailleurs, mais enfin il faisait partie de tout ce paysage. Il appartenait à une génération plus engagée dans le travail sur les structures inconscientes de la subjectivité que dans une étude de type phénoménologique. Et donc, pour ma génération, on passait de Sartre au structuralisme et évidemment par Lacan. Alors, Lacan avait bien entendu une très grande ambivalence à l'égard de ce qu'était l'écriture. Il redoutait le plagiat en permanence, il était obsédé par le plagiat. Ça tenait au fait que son œuvre était orale et publiée par petits bouts. Il cherchait en même temps à conserver secrètes toutes ses idées, obsédé par le plagiat et obsédé par le complot. En réalité, il n'en finissait pas de désirer que ses idées fussent reconnues d'un bout à l'autre de la planète avec l'éclat qu'elles méritaient à ses yeux. Lacan, depuis toujours, se prenait pour Lacan. Quand il n'était pas encore connu, il disait « je suis le docteur Lacan dans n'importe quel hôtel » et il se voyait déjà, le penseur qu'il deviendra. Il était en même temps dans un état d'angoisse permanente, il était envahi par la crainte de ne pas plaire et il manifestait une sorte de terreur en même temps à l'idée que son œuvre pût échapper à l'interprétation que lui-même voulait bien en donner. Autrement dit, double mouvement, je suis le plus grand interprète de Freud, seule ma lecture est valable, hein, mais en même temps, je ne veux pas donner mon œuvre parce qu'on pourrait l'interpréter dans un sens qui ne serait pas le mien. Autrement dit, Lacan, il y a toujours le désir du dogme et le désir de briser le dogme. Il est toujours entre transgression, hein, transgression extrême, et fabrication d'un nouveau dogmatisme. Il n'acceptait donc pas de voir paraître la trace écrite de sa parole, mais en même temps, il la laissait circuler, puisque c'était les débuts des enregistrements et qu'on commençait à mettre les magnétophones qui ont joué un rôle alors très important, surtout à partir d'un certain moment. À la fois, il ne les voulait pas, il était capable de casser les magnétophones quand on les mettait, et en même temps, il les voulait, les deux choses. Il conservait dans ses armoires les volumes, parce que c'était transcrit par quelqu'un qui les transcrivait, fort heureusement, une sténotypiste. Alors, il les conservait dans ses armoires, c'était absolument impraticable. Il conservait aussi, il accumulait les tirés à part de ses articles, devenus bien sûr au fil des années introuvables. Lacan a 65 ans en 66, et donc il n'y a pas d'œuvre écrite encore. Il ne parvenait jamais à s'en détacher, il les regardait en se lamentant et il disait « que vais-je faire de tout ça ?» Mais il pouvait aussi les distribuer comme une récompense au gré de dédicaces extrêmement subtiles ou de confidences équivoques. Les séminaires, les tirés à part faisaient partie de cadeaux secrets. En 63, l'œuvre lacanienne n'était donc pas accessible à qui voulait la lire normalement, hors des cercles d'initiés. Quant à la thèse de 32, comme je l'ai dit, elle était passée aux oubliettes, au point que... alors, quand un exemplaire... Lacan était bibliophile, hein, par ailleurs, il collectionnait. Et quand un exemplaire de sa thèse passait, il se précipitait pour aller le racheter dans une librairie spécialisée pour qu'on ne la voit pas et en même temps pour qu'un jour il en fasse quelque chose. Alors c'est François Valle, bien sûr, et il fallait avec son éditeur une forte relation transférentielle et contre-transférentielle. Or, François Valle était l'analysant de Lacan, mais un analysant très particulier parce qu'il n'obéissait pas. Mais en même temps, l'admiration était là. Et donc, c'est lui qui va permettre à Lacan, en 1966, de publier la somme de ses écrits, composée donc de l'ensemble de ses conférences, c'est-à-dire des textes, qui étaient elles-mêmes issues de son séminaire. En conséquence, il va devenir l'auteur d'une somme qui était organisée par un autre que lui. Et cette somme, ensuite, va fonctionner comme une Bible qui fut ensuite commentée par les élèves oralement et dans une relation transférentielle au maître. Mais en même temps, les écrits lui échappent. Lacan instaurait, en effet, une continuité entre la cure et le séminaire, au point que pour ses analysants, le fait d'assister au séminaire était aussi l'équivalent d'une séance, ce qui va progressivement expliquer les séances courtes. Il y avait celle du séminaire, une fois par semaine. Séance longue, d'une heure et demie, presque deux heures, séance donc très différente des séances courtes qui se déroulaient rue de Lille. Mais l'opus magnum réalisé par Valle permit aussi à Lacan de devenir l'auteur d'une vraie œuvre écrite, très différente finalement de celle énoncée dans le séminaire, lui-même enregistrée, puis transcrite par ses élèves, avant d'être rédigée à partir de 1973 par son gendre, Jacques-Alain Miller, qui va en devenir le co-auteur. Il y a toujours un autre auteur derrière l'auteur. Alors, à cet égard, les écrits sont moins un livre que le recueil de toute une vie consacré à un enseignement oral, d'où le titre très simple, écrit, pour signifier trace, archive, quelque chose qui ne se défait pas, mais dont il a peur en permanence que ça se défasse, qui ne s'envole pas et qui ne peut plus être dérobé. Et ce recueil entre en contradiction avec le séminaire, qui, lui, continue à être une œuvre orale. Je dirais que le séminaire, c'est quand même une œuvre ouverte, qu'on peut interpréter de façon très différente, où on verra, je dirais, un Lacan en liberté. De même que vous avez la conférence de Louvain avec le Lacan furieux, absolument en liberté, celui qui parle, et puis Télévision, qui est le film de Benoît Jacquot, qui est filmé où Lacan est parfaitement maître de lui, où on voit qu'il est filmé en étant cadré, mis en scène. Et il y a ces deux-là. Alors, l'œuvre est donc partagée avec un autre auteur, mais le nom de l'éditeur des écrits ne figure pas sur la couverture, alors que celui du transcripteur du séminaire y côtoie de plein droit et de plein pied celui de Lacan. C'est logique, c'est logique, puisque François Valle a fait vraiment un travail de réécriture, alors que Jacques-Alain Miller a fait un travail de transcription, ce qui n'est pas du tout pareil. Lacan disait toujours, et notamment à Baltimore, « Je suis en retard sur chaque chose que je dois développer avant de disparaître et je n'arrive pas à avancer. » Elle résume de manière stupéfiante une problématique de l'être et du temps qui est l'un des thèmes majeurs de la destinée lacanienne. Gêné depuis l'enfance par sa lenteur et par ses angoisses, Lacan n'a pas cessé de théoriser le patou, ce qu'il appelait le patou, alors même qu'il affichait un grand désir de maîtriser le temps, de lire tous les livres qu'il collectionnait, de visiter tous les hauts lieux de la culture mondiale, de posséder tous les objets. Sa légendaire impatience, sa volonté de toujours obtenir ce qu'il désirait, se manifestait dans la vie courante par différents symptômes qui, avec l'âge, ne firent que s'accentuer. Non seulement à la fin de sa vie, il a continué, je vais revenir aux écrits, à réduire la durée de ses séances, à dormir moins de 5 heures par nuit et à conduire son automobile de plus en plus vite, sans se plier aux règles élémentaires de la sécurité, mais il a été de plus en plus hanté par le fantasme de la peau de chagrin, se référant d'ailleurs à Freud. Redoutant les stigmates d'une vieillesse, dont il savait qu'elle finirait par mettre un terme à ses activités intellectuelles, il fut progressivement habité par une peur de voir disparaître sa parole et son héritage, ce qui le conduisit à réinterroger en permanence les grands mythes sur lesquels il avait forgé sa lecture de la doctrine freudienne, la castration, le déchet, le sexe, la jouissance, la lettre, la mort, la mystique, la trinité. En publiant donc, à l'âge de 65 ans, la majeure partie de son œuvre déjà écrite, refaite, recomposée, revisitée, Lacan a donné un poids ontologique, non pas à un simple recueil d'articles, mais à une écriture, au sens littéral d'une inscription originelle. Et cette inscription a pris pour lui l'allure d'une sorte d'événement fondateur. À partir de ce moment-là, il est devenu Lacan, identifié à ses écrits. Entraîné par Valle, il a construit ses écrits comme un lieu de mémoire, comme un monument architectural, devenu intouchable, d'autant plus soustrait à ce qu'avait été sa véritable histoire, qu'il était soumis à une réhistorisation subjective, obéissant elle-même à la règle du futur antérieur, c'est montré dans la préface. Il construit un monument, un lieu de mémoire qu'on ne peut plus toucher. Et Valle y participe. Du coup, en tant qu'auteur de ce texte construit à partir d'autres textes issus eux-mêmes d'une parole, il fut frappé du même symptôme que ses disciples. À partir des écrits, il se mit à commenter son propre écrit originel, et de se faire le porte-parole de sa propre discursivité. Vers 1970, il se citait lui-même, il parlait de lui-même à la troisième personne en parlant des écrits. Il jouait avec des allographes et des néologismes de plus en plus importants. Mais par ailleurs, comme il était un vrai savant, incapable de s'en tenir à une telle posture narcissique, il fut aussi animé, pendant les 10 dernières années qui lui restaient à vivre, d'un grand désir malarméen d'aller à l'essentiel. Aussi organisa-t-il de nouveau autour de lui un grand laboratoire théorique où furent réunies les conditions transférentielles qui avaient toujours été nécessaires à ses recherches. La mobilisation se faisait sur 3 lieux, École freudienne de Paris, séminaire, divan. Au cœur de cette trilogie très lacanienne, il s'orienta vers 2 modes de formalisation, le matème d'un côté, les nœuds borroméens de l'autre. D'un côté, on peut d'ailleurs opposer aussi les écrits et le séminaire. D'un côté, un modèle de langage articulé à une logique de l'ordre symbolique. De l'autre, un modèle de structure fondé sur la topologie et opérant un déplacement radical du symbolique vers le réel. On trouve dans les écrits les différentes étapes de cette élaboration, ponctuées de formules saisissantes. L'inconscient structuré comme un langage, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, moi, la vérité, je parle, il n'y a pas d'autre de l'autre, etc. C'est le 15 novembre 1966. Après des mois de labeur et de discussion, on a aujourd'hui toutes les traces des articles, on peut comparer ce que sont devenus les articles d'avant et ce que sont les écrits, tout a été publié depuis, l'opus sort en librairie accompagné d'un index raisonné des concepts majeurs, texte dans le texte. Celui-là est réalisé par Jacques-Alain Miller, et d'un appareil critique et d'une présentation logique des textes plutôt que chronologique. Donc là, l'œuvre est cadrée. C'est vraiment ce que je dis, c'est-à-dire ce monument, fait par plusieurs, en tout cas 3 déjà. François Valle, Lacan, et déjà celui qui transcrira le séminaire. 5 000 exemplaires sont vendus en moins de 15 jours. Ça, c'est évidemment ce que vous avez signalé, Antoine Compagnon, de l'importance des médias dans cette année-là. Toutes ces polémiques interviennent en psychanalyse. Alors, Lacan, le structuraliste, le subversif, accusé lui aussi par les freudiens orthodoxes d'être un imposteur, etc. Et avant même la publication des comptes rendus de presse, 5 000 exemplaires avant la publication des comptes rendus de presse. Ça, ça n'a fait qu'augmenter. Alors, les 5 000 exemplaires, c'est évidemment que tout le monde attendait enfin de pouvoir lire Lacan. Une anecdote, je connaissais Lacan depuis mon enfance, puisque ma mère suivait ses séminaires, je faisais donc ses études de linguistique, et quand c'est sorti et que je l'ai lu, j'ai dit à ma mère, mais enfin, c'est absolument génial, ce Lacan, et elle m'a dit, mais depuis le temps que je te dis. Mais je ne pouvais pas m'en rendre compte avec précisément le séminaire. Il fallait qu'il y ait aussi, pour les gens de ma génération, quelque chose à lire, où on puisse découvrir en effet la progression de sa pensée. Plus de 50 000 exemplaires seront achetés pour l'édition courante et la vente en poche battra tous les records pour un ensemble de textes quand même complexes. Plus de 120 000 exemplaires pour le premier volume, plus de 55 000 exemplaires pour le deuxième. Quant aux articles de presse, je ne vais pas les citer ici, ils furent absolument fanatiques. Les uns très élogieux, contribuant à fabriquer un Lacan sphinx admirable, qui s'est fait tout seul, qui n'avait pas d'histoire, qui enfin est le premier à rénover Freud, et le reste, bien entendu, très très critique, voire parfaitement stupide, où là Lacan apparaissait comme un diable absolument effrayant. Avec d'ailleurs l'histoire de la psychanalyse, il y a ces excès-là, on les retrouve bien sûr dans toutes les batailles d'avant-garde, mais je dirais qu'avec la psychanalyse c'est beaucoup quand même, c'est plus. La partition entre la haine et l'adulation est très très grande. Alors l'œuvre de Lacan est aujourd'hui traduite, séminaire et écrit, en une 50aine de langues, et elle continue à être lue régulièrement par un nombre important de lecteurs, de 10 à 15 000 par an, malgré la crise des sciences humaines et malgré le fait qu'elle est transcrite aujourd'hui de façon très lente. Mais enfin, ça reste quelque chose d'important. Je pense d'ailleurs que tous les auteurs dont nous parlons aujourd'hui, je me demandais par exemple aujourd'hui qui lit Picard. Enfin, Barthes, c'est évident. Hein. Les ventes de Barthes continuent à être considérables. Je ne dis pas que c'est la preuve que quelque chose est bon, mais des années plus tard, oui, quand même. Hein. C'est quelque chose qui s'est imposé. Foucault, même chose. Donc, quand même, hein, je pense que c'est ça qui est passé à la postérité. Je ne sais pas si on lit Picard aujourd'hui tant que ça. Et d'ailleurs, je me demandais ce qu'il était devenu. Bon, peut-être on l'abordera.
Son œuvre majeure, qui était l'édition de la Pléiade de Racine, les deux volumes,
ça,
elle a été remplacée il y a quelques années par l'édition de Georges Forestier.
Donc on a même...
On n'a plus l'édition de la Pléiade de Raymond Picard. Genre.
On a même éjecté Picard de la Pléiade.
La plupart des Pléiades ont été refaites. Hein,
C'est terrible, parce que la Pléiade s'est consacrée quand même pas mal d'années de sa vie... C'est important, la Pléiade. Et si, en plus, on enlève le travail de quelqu'un, je me dis qu'il a dû souffrir. Enfin, est-ce qu'il a vu ça ?
Non, il était mort.
Il était mort.
Bon, j'espère qu'on ne refera pas la Pléiade Proust avant ma mort.
Mais bon, on se pose toujours la question. Bon, je vous rappelle que Gallimard n'a pas voulu d'une Pléiade Freud, c'est une autre histoire. Hein. Bon. Donc, voilà. Alors... Dernier mot, hein. On peut quand même dire que l'opus magnum des écrits a tenu, contrairement à la crainte de l'auteur. C'est aussi une somme qui ressemble, je dirais, c'est pas un livre, hein, puisque c'est une somme de 34 articles, ça ressemble à la fois au cours de linguistique générale de Saussure, à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, et ça fonctionne, bien entendu, comme un livre fondateur d'une pensée que l'on peut, selon les époques, lire, critiquer, commenter, interpréter de multiples manières, le pire étant évidemment celle des épigones, hein, qui en font un texte absolument sacré. Mais aujourd'hui, à la lumière de l'histoire, à la lumière des séminaires, à la lumière de toute l'histoire littéraire qu'on a pu faire, évidemment, on relit Lacan de façon tout à fait différente, comme vous relisez ici, hein, tous les débats autour du structuralisme. C'est plus du tout, c'est plus la même chose. J'en suis un petit peu témoin, parce que pendant longtemps, je lisais les écrits, non pas comme une Bible, parce que j'ai jamais été une épigone, mais quand même comme quelque chose de déshistorisé. Or, évidemment, ensuite, quand j'ai fait de l'histoire, et même aujourd'hui, on ne relit plus du tout Lacan de la même façon. Un dernier point, moi, personnellement, et je ne suis pas la seule, j'ai d'abord lu Lacan et Freud après. Et ça, c'est un problème. Je pense que si on regarde à l'étranger, on s'aperçoit après coup que nous avons tous lu Freud à la lumière de Lacan, ce qui est évidemment un très grand bénéfice, hein, parce qu'on a lu un Freud éclairé par cette révolution structuraliste, un Freud penseur subversif, mais dès qu'on est à l'étranger ou qu'on est en dehors, hein, de cette lecture-là, il a fallu par exemple que je relise complètement Freud moi-même sans Lacan, hein, c'est une nécessité, on s'aperçoit évidemment d'un Freud immergé beaucoup plus dans le biologisme, le darwinisme et l'évolutionnisme, hein, alors que Lacan, de par sa manière de lire Freud et de dire que c'était la seule lecture possible, on finissait par attribuer à Freud une lecture qui était celle de Lacan. Hein. Je l'ai formulé, moi, d'une façon un petit peu humoristique, en faisant un petit peu une enquête auprès des libraires. Il y a une époque où on venait demander en librairie quels étaient les textes de Freud sur la forclusion. Hein. Or, il n'y a pas de texte de Freud sur la forclusion, ce sont des textes de Lacan. Et la confusion s'est établie. Donc, elle a été à la fois bénéfique, hein, et en même temps, elle pouvait tourner au pire. Hein. Voilà.
Vous disiez que enfin, en gros, en 65-66, rien n'était disponible. Les transcriptions des séminaires, parce qu'il y a beaucoup de ces transcriptions dactylographiées des séminaires, c'est d'après ? Oui. Il n'y en avait pas encore à ce moment-là ?
Très, très peu. Il y en avait, mais souterraines, réservées aux initiés.
Il y avait une tradition. Qui étaient les transcriptions dactylographiées.
Oui, alors les disciples proches, comme ma mère par exemple,
les avaient
à la maison.
Les avaient déjà.
Ce qui fait que, et elle les avait, elle, annotées de la main de Lacan. Et donc.
Corrigées, oui.
Oui, corrigé. Mais quelqu'un comme moi, je ne les lisais pas. Il fallait un livre à cette époque-là. Mais en effet, ça circulait
déjà.
Comme une œuvre secrète pour initier. Ouais. Les numéros de la psychanalyse où il avait publié tous ses textes n'étaient pas beaucoup réédités. Donc le grand texte de 38 sur la famille, qui n'est pas dans les écrits, est resté très longtemps introuvable. C'est après la publication des écrits aussi.
Évidemment, il y avait moins de photocopies qu'aujourd'hui, moins de facilité de photocopies.
Bien sûr, il n'y avait pas. Alors maintenant, elles sont sur Internet, les transcriptions, ce qu'on appelle les transcriptions littérales. Elles sont autorisées, et évidemment, il y a un énorme corpus. Et puis surtout, il y a beaucoup de transcriptions différentes. C'est quand même 25 années de séminaire.
L'enseignement. Oui, j'avais un peu pensé à inviter François Val pour savoir comment il avait travaillé. Je pense que vous lui en avez...
Je vais faire un chapitre entier de mon livre, Portrait d'un éditeur. Il m'a tout raconté. Je crois que... Enfin, il était assez content, d'ailleurs, de ce que j'ai fait. Il est assez étonnant. Il a arraché au jour le jour à Lacan, parce que je ne raconte pas tout ici. Mais il est allé à Argentière prendre des vacances pour travailler sur tout, et Lacan, dans un état d'angoisse permanent, lui téléphonait, rajoutait des choses, ne trouvait plus les textes. Lacan perdait tous les textes. Il y a un état de... À la fois, il était collectionneur. Il y a du trop et du pas assez en permanence avec Lacan. Donc, il collectionnait tout et en même temps, il perdait tout. Il ne retrouvait jamais rien dans les placards. Alors, allons savoir si c'est vrai ou pas. En tout cas, il fallait soutirer quand même les choses, les textes un à un, les réécrire. Il n'était pas d'accord, il fallait encore les réécrire parce que Val était remarquable. Mettait sa patte. Je crois que Val est un extraordinaire éditeur, mais qui a, pour Lacan, la qualité de réécrire. Pour un auteur qui écrirait tout, ça peut être un peu gênant. Mais enfin, pas pour Lacan. Parce que c'est lui qui a vraiment fait passer à l'écrit.
Oui, moi j'ai eu François Val comme éditeur pour mes deux premiers livres. Oui,
vous avez dû recevoir les pages corrigées.
Les leçons, oui.
Oui, moi aussi, quand j'ai fait l'histoire de la psychanalyse au seuil, ce n'était pas mon éditeur, mais on lui a donné, j'ai eu droit à... Enfin bon. Oui. Mais il a souvent raison, vous êtes d'accord?
Oui. Dans la... Vous évoquez la première réception de l'œuvre de Lacan.
66.
Dans l'hiver 1966-1967. Comme pour Foucault, comme pour Les mots et les choses quelques mois plus tard, la grande référence, c'est Sartre.
Toujours.
Partout, il est comparé à Sartre.
Toujours.
Et ce débat pour dire que Sartre est en fait beaucoup plus jeune que lui et qu'il ne doit rien à Sartre et qu'il n'a pas de rapport.
Ils sont de la même génération. Mais Lacan et Sartre ont le même âge à peu près.
Sartre doit avoir 2 ans de moins, je crois.
Donc
il dit qu'il ne doit rien
à Sartre.
Il n'a aucun rapport avec Sartre.
Il y a pourtant.
Sartre était.
Non, il y a. Il y a des références à Sartre permanentes. Oui. Mais je crois que Foucault a eu la formule pour dire Lacan et Sartre, c'est nos contemporains alternés. L'un introduit la structure, l'autre reste dans l'histoire. On peut le traduire politiquement, puisqu'ils ont tous les deux accompagné les maoïstes quand même, de façon très différente, l'un comme un frère, l'autre comme un père. Enfin, il y a quelque chose autour de 68 qui se noue entre les deux. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de références à Sartre dans Lacan. Je pense en effet à ce fameux texte sur les prisonniers de 1945, c'est une référence à l'enfer, c'est les autres. Ouais. Et Lacan a une théorie de la liberté qui n'est pas du tout la même. Lacan a une théorie de la liberté qui est plus proche de celle de Cavaillès et de Canguilhem. Hein. La liberté, au fond, c'est la contrainte. Hein. C'est la contrainte et pour Sartre, c'est l'individu. Donc il y a sans arrêt des références. Mais au fond, le dialogue n'a pas été possible. Et puis, souvenez-vous de la manière dont Sartre a reçu toute l'époque structuraliste, très mal, en la comprenant mal. Je crois qu'il y avait quand même un grand respect pour Sartre. Enfin, il y avait un respect pour Sartre, à cause du Sartre engagé, à cause de... Je crois que c'est la droite qui traitait Sartre vraiment de façon épouvantable. Il y avait vraiment, de ce côté-là, l'idée que Sartre avait toujours tort et qu'Aron avait raison. Il y avait aussi ce débat-là, hein, à cette époque-là. Moi, je préférais avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Mais cette argumentation était terrible. Et en même temps, à l'horizon, je me souviens de Louis Althusser, que j'ai bien connu. J'étais moi ensuite élève de Deleuze. Il y avait un respect pour Sartre, à cause de la guerre d'Algérie, à cause de l'engagement. Mais il y avait en même temps cette idée que la littérature, il n'y comprenait rien. Avec ses théories de l'engagement. Cela dit, on lisait les mots, et là, on voyait que c'était un très grand livre. Bon. Y avait cette idée que Sartre n'avait rien compris à la psychanalyse, et puis il y a le livre posthume qui s'appelle « Le scénario Freud », qui est le scénario fait pour le film de John Huston, et quand on lit ça, c'est magistral. Hein. On voit que Sartre s'est confronté à Freud dès 1938, que c'est d'une intelligence extraordinaire. Donc, il faut quand même relire Sartre aujourd'hui aussi à la lumière de ces conflits qui existaient. Mm-hmm. Sartre est présent, hein, dans cette affaire.
Oui.
Mais évidemment, il se sent détrôné par le structuralisme.
Oui. Et c'est vrai que dans ses textes, Lacan dit explicitement qu'il ne doit rien à Sartre.
Oui. Mais Lacan passait son temps à dire qu'il ne devait rien
à
personne.
C'est
plus compliqué. Oui. Il disait, c'est-à-dire, il ne mentionnait pas, soit il disait, je ne dois rien à Sartre. Or, oui. Il devait dans son œuvre. Peut-être qu'il ne se rendait pas compte à quel point. Il faut l'exégèse quand même. Oui. Il avait masqué l'enseignement de Kojève. Donc, il se référait. Mais par contre, il passait son temps à dire qu'il devait beaucoup à Hegel. Sauf que ce n'est pas Hegel, c'est Kojève. Donc, il faut... Oui. Alors, il niait, évidemment... l'influence considérable de Vallon, de tout ce qui lui déplaisait. En revanche, il passait son temps à dire qu'il devait tout à Jacobson, à Lévi-Strauss, à Saussure. Et Lévi-Strauss et Jacobson considéraient qu'eux, ils n'aimaient pas beaucoup Lacan. Ils le voyaient plutôt comme quelqu'un qui n'était pas sérieux. Quoi. Il faut dire aussi que Lacan n'était pas universitaire. Et tout ce débat, comme vous l'avez rappelé, se faisait entre... Fond, il y avait ce moment universitaire. Que va devenir l'université? Est-ce qu'elle va rester sur l'ancienne critique ou est-ce qu'on va faire passer dans l'université? Foucault, Derrida, Barthes étaient des universitaires. Lacan, pas du tout. Et donc, pour les universitaires, il n'était pas légalisé, hein, même s'il a eu son strapontin ensuite, son séminaire a été inscrit. Je crois que Lacan était inassimilable par l'université. On comprend pourquoi.
Oui, mais il était médecin.
C'est pas seulement ça.
Oui,
c'est pas seulement ça. C'était son comportement. Oui. Il n'y avait pas de... Enfin, pour Lacan, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de jugement des pères, il n'y avait pas cette règle universitaire. Puis il fallait passer une thèse quand même. Il ne l'a pas passé. Enfin,
c'est pour ça que je rappelle qu'il était médecin. Donc son lieu universitaire, ce n'était pas la Sorbonne.
C'était... D'accord, mais Canguilhem était médecin, historien des sciences. Enfin bon.
Oui.
Mais c'est vrai que son lieu, ce n'était pas
c'était
ça.
Pas, son lieu, ce lieu était bah, c'est pour ça que l'exclusion de Sainte-Anne est si considérable.
Parce il est exclu partout, toujours.
Le lieu institutionnel était Sainte-Anne.
Oui,
pas la Sorbonne.
Mais il s'en va de partout. Ouais. Toujours. Il a été aussi exclu de l'école normale supérieure, quand même, parce qu'il faisait trop de bruit.
Oui.
Avec Lacan, il y a toujours un excès, une transgression, ouais. Trop de monde, des atteintes à la sécurité. Enfin, on invoquait à l'école normale la sécurité. C'est vrai qu'à partir du Panthéon, il avait 1500 personnes qui venaient suivre le séminaire. Mais je crois qu'il y en avait autant après pour Foucault au Collège de France, il y en a autant pour vous.
Donc mais il y avait,
le problème est...
Il n'y avait pas de salle aussi grande.
Oui, mais ouais. Avec Lacan, ouais. Les autorités universitaires se plaignaient toujours de ouais. Quelque chose. Je pense que ça, c'est en effet parce que Lacan, c'était aussi le clinicien de la psychose, parce qu'avec Lacan... Ouais. Était amené le danger d'avoir des fous dans la salle qui parlaient en liberté, et c'était vrai d'ailleurs, il y avait quand même tout ça. Et puis la psychanalyse, qui n'a jamais eu sa place en tant que discipline à l'université, qui était sur ce strapontin, hein, mais donc c'était extra et intra-universitaire.
Et justement, vous parlez donc de la place de la psychanalyse dans l'université et le rôle du livre de Ricoeur dans cette publication. Est-ce que vous admettez ce point de vue ?
Il est évident que quand Val propose à Lacan les écrits, il est l'éditeur de Ricoeur.
Oui.
Et ça joue un rôle considérable sur la décision. D'abord parce que Val pense que c'est le moment. Et d'autre part, parce que Lacan était fou de rage contre Ricoeur. J'ai reconstitué toute cette affaire. Bien entendu que Lacan avait tort de détester comme ça Ricoeur. Mais il s'était passé quelque chose de terrible, c'est que Ricoeur est venu plusieurs années de suite au séminaire de Lacan. Il a écrit sur Freud un livre tout à fait honorable, phénoménologique. Bon. Mais Lacan n'est pas cité. Juste en bas de page. Et pour Lacan, c'est vécu comme l'exclusion, justement, de quelque chose, puisque Ricoeur a suivi le séminaire. Alors, il a été absolument odieux, il a engagé toute la polémique, il a fait écrire ses élèves, donc Valabriga, à l'époque, et puis Michel Thor, qui ont démoli Ricoeur. Mais en même temps, quand j'ai longuement demandé à Ricoeur pourquoi, après avoir suivi des années le séminaire de Lacan, il n'avait pas fait un chapitre de son livre, quand même, sur la refonte lacanienne, il m'a dit « j'ai rien compris ». Bon. Non, mais c'est un problème. Bien. C'est un problème. J'ai rien compris. Et ça tient à ce que je dis aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'écrit. Donc c'était oral, il fallait rechercher les textes. Bon. Lévi-Strauss m'a dit un jour, j'ai jamais rien compris à Lacan. Je dis pas vous quand même. Je lui ai dit, j'ai rien compris. Et je lui dis, mais après la publication des écrits, il m'a dit oui, mais je les ai pas lus. Alors il y avait le côté, or Lacan s'était nourri de Lévi-Strauss, bon, et il fallait quand même un peu leur faire dire qu'ils exagéraient aussi de pas lire. Je crois que là, le caractère de l'homme jouait aussi hein, dans toute cette polémique. Alors, Ricoeur n'a pas pu occuper à ce moment-là le terrain qu'a occupé Lacan, à savoir d'être le grand relecteur français de Freud. Quand on lit le travail de Ricoeur, c'est une interprétation phénoménologique de l'œuvre de Freud, très correcte, mais ça n'a pas c'est pas Lacan, quand même. C'est pas du tout pareil. Il n'y a pas eu en France, à la différence d'autres pays, il n'y a pas eu de rival capable d'opposer à Lacan quelque chose de très fort. Ça, je les ai tous lus, j'ai essayé en faisant l'histoire de me poser la question de cette façon-là. Est-ce que Lagache surtout, mais quand on lit leurs œuvres, ce sont des commentateurs classiques et il n'y a pas la formidable nouveauté de l'œuvre de Lacan. Donc je crois que c'est un des problèmes hein, de Lacan, c'est qu'il a occupé tout le terrain.
Et la grande, colère à l'égard du livre de Ricoeur, c'était aussi que Ricoeur mettait l'accent sur le langage.
Oui, et Lacan l'a accusé de le plagier. Oui. n'y a pas le moindre plagiat, bien sûr.
Et le langage n'appartenait pas à Lacan, et le langage était...
On est d'accord.
Et le langage était...
Bien sûr.
...était le nouveau point de vue sur...
Lagache le disait déjà. Oui. C'était les thèses des phénoménologues. Je vous rappelle tous les colloques phénoménologie-psychanalyse. Il y avait Merleau-Ponty aussi, oui, qui participait. Donc l'idée, au fond, tout le courant freudien phénoménologique, qui venait aussi du monde germanique, du monde existait. Lacan, d'ailleurs, a eu sa période phénoménologique. Il a été heideggerien, puis il a quitté Heidegger, etc. etc. Alors, je dirais que ce qui a été assez grand, c'est après Lacan, c'est-à-dire les lecteurs de Lacan. Derrida a vraiment apporté quelque chose, à mon avis, dans la lecture de Freud. Mais Foucault aussi. La volonté de savoir, c'est une explication avec Freud. Freud est présent dans l'œuvre de Foucault, mais ils sont tous les deux passés par Lacan. Donc, ce n'est pas du tout la même génération. S'ils s'expliquent comme ça avec Freud, c'est aussi parce qu'ils sont passés par Lacan. C'est le cas de Deleuze. Et là, même problème, Lacan ne supporte pas. Sur Foucault, il ne dit rien. Il est en admiration, mais sur Derrida, il va recommencer la même sérénade qu'avec Ricoeur. Ouais. Vous me plagiez, bon. Ouais. Et donc, là, j'ai vécu évidemment tout ça. Lacan était devenu infernal par rapport à tout débat possible. C'est pour ça que je dis que le fait qu'il n'était pas à l'université posait un problème. Les disputations n'étaient pas possibles avec lui. Ça, c'est vrai. Et donc, mais je trouve que l'œuvre de Derrida sur Freud, l'abord de Foucault, même celui de Deleuze, est certainement plus intéressant, à mon avis, que celui de Ricoeur.
Que celui de Ricoeur.
Il y a plus de c'est plus intéressant. Ils ont mieux lu, ou autrement, en tout cas, l'œuvre de Freud. Et puis, si vous regardez tout ce qu'a écrit Derrida, Freud est présent tout le temps. Barthes aussi. Alors, Barthes lit, bien sûr, il le dit. Il lit Freud à la lumière de Lacan, hein, lui, il le dit, mais il a aussi un rapport à Freud personnel. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus riche là que Ricoeur, qui est plus l'héritier d'une autre tradition. C'est quand même un livre honorable, oui. Ricoeur. Alors ensuite, il y a eu la bataille américaine, où Ricoeur est entré, je dirais, en conflit non pas avec les Lacaniens, mais beaucoup plus avec Derrida, aux États-Unis, comme vous savez. Oui. Et donc, il y a un destin un peu dramatique de Paul Ricoeur. Il le disait, d'ailleurs, à la fin de sa vie. Il ne se trouvait pas assez reconnu.
C'est sans doute, en effet, pas le livre de Ricoeur qui a été... le plus lu, celui-là.
Il a été lu. Comme pas assez, enfin, comme appartenant au passé. Je crois que Ricoeur est mieux dans ses autres ouvrages.
Oui, c'est ça. C'est
il a été embêté avec Freud. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Et puis, il y avait aussi le fait que son fils était lacanien, pur et dur. À l'époque où il a commencé à écrire, il était entouré très mal. Enfin, bon, il était contesté aussi de ce côté-là. Oui. Il y avait aussi les histoires de famille comptent. Oui. La bataille structuraliste a traversé les familles. Je pense.
Bien, je crois.
Comme les révolutions.
Comme toutes les querelles.
Toutes les querelles. J'imagine. Hein, bon, on le voit aujourd'hui puisqu'on a les biographies. Enfin. Oui.
Bon, je crois qu'on va vous remercier pour cette contribution à notre séminaire.
Merci.